Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir. Quelle est l'approche du gouvernement congolais dans la résolution des conflits coutumiers? Nous recevons aujourd'hui Monsieur le ministre Eyros Michel Vuzimeya, il est ministre chargé des affaires coutumières. Excellence, bonjour.
Bonjour, merci.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien. Des questions et préoccupations, appelez-nous, non, n'appelez pas, écrivez-nous plutôt à service@radiookapi.net. Vous avez également la possibilité de poster vos questions et préoccupations sur la page Facebook de l'émission Okapi Service. Bob Landou à la technique, Tati Mapoukou assure la réalisation, Marcel Ngombo à la coordination. Au micro, c'est Jody Daniel Kachama sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Excellente condition d'écoute du magazine de la vie au quotidien.
Okapi Service, pour participer à l'émission 081 890 63 94 par SMS 081 070 20 50 ou internet service@radiookapi.net.
Bien, encore une fois, bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien, Okapi Service. Nous parlons aujourd'hui de l'approche du gouvernement dans la résolution des conflits coutumiers. Eh bien, vous savez, les conflits coutumiers sont légion en RDC. Ils sont généralement liés aux problèmes fonciers, l'accession au trône ou encore aux ambitions démesurées d'une communauté à dominer sur une autre. Depuis quelque temps, on déplore l'ingérence des hommes politiques dans les affaires coutumières. Cela ne fait qu'envenimer la situation. Ces conflits dégénèrent souvent et les conséquences sont déplorables. Des cases brûlées, des pillages, les morts d'hommes, vous avez le déplacement des populations, la pauvreté, etc. Alors comment le gouvernement congolais compte résoudre tous ces conflits liés à la chefferie traditionnelle? On en parle aujourd'hui dans Okapi Service. Nous recevons aujourd'hui Monsieur Eyros Michel Vuzimeya, il est ministre chargé des affaires coutumières. Monsieur le ministre, encore une fois, bonjour.
Bonjour Monsieur Glody, merci.
Et bienvenue dans cette émission, c'est jeudi.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Jody.
D'accord. La première question est de savoir quelles sont, j'ai cité bien entendu quelques causes de ces conflits, mais quelles sont les autres causes, raisons qui sont à la base des conflits coutumiers récurrents à travers le pays?
Oui, en fait, nous observons à ces jours plusieurs conflits coutumiers qui sont essentiellement de cinq ordres. La première cause de conflits coutumiers, c'est arrive en cas de désignation du chef coutumier. Même à titre intérimaire, lorsqu'il y a vacances et qu'il faille désigner les successeurs, et si les procédures ne sont pas respectées normalement, ça peut déboucher sur un conflit coutumier. Là, c'est un conflit lié à la désignation. Mmh. Il y a aussi les conflits liés à l'usurpation du pouvoir. C'est-à-dire que vous voyez quelqu'un qui n'est pas de la famille régnante, qui n'a pas le sang royal, mais qui, par les faits de l'histoire, s'improvise et prend le pouvoir. Là aussi, ça peut déboucher à un conflit coutumier. Nous avons aussi des contestations des limites des entités coutumières. C'est-à-dire que deux ou plusieurs entités coutumières qui se battent pour fixer les limites territoriales. En ce moment-là aussi, nous pouvons parler d'un conflit coutumier. Il y a aussi des conflits liés à la contestation des terres des communautés locales. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous voyez la plupart des chefs coutumiers qui vendent des terres sans tenir compte de l'espace réservé à la survie des populations. Dans ces cas-là, les acquéreurs, généralement qui sont des fermiers, des entrepreneurs, chassent les populations dans cet espace-là pour qu'ils cultivent
plus. Pour exploiter les bois, par exemple.
Exactement. Là aussi, ça peut déboucher à un conflit coutumier. Mmh. Nous avons aussi des revendications des créations de nouvelles entités coutumières. C'est-à-dire que il y a certaines notabilités, il y a certains groupes de personnes, certaines communautés qui, à la longue, estiment que qu'elles sont en mesure de pouvoir s'ériger en entité coutumière. Mmh. En ce moment-là, il peut y avoir aussi conflit coutumier entre l'entité qui doit à laquelle elles appartenaient, ces communautés-là, et la nouvelle qui veut être créée. Là aussi, on peut déboucher sur un
conflit. Est-ce qu'on peut dire que c'est le cas de Minembwe actuellement?
On va y arriver. Je ne sais pas si ça sera le cas, mais je vais donner les éléments qui vous permettront de comprendre de quoi il s'agit. Mmh. Et puis, nous pouvons aussi arriver à un conflit coutumier suite à la soumission d'une entité coutumière à celle dont la coutume n'est pas la sienne. C'est-à-dire que vous appartenez à une entité coutumière et du coup, on vous dit, voilà, vous appartenez plus à cette entité coutumière, vous appartenez à une autre. Mais à celle-là, la coutume est tout à fait différente de la vôtre. Et on vous demande de vous assujettir à cette coutume-là.
Là, d'appliquer ça
cette
coutume-là.
Et là, ça ne marche pas. Mmh. Donc, ce sont ces différents cas-là qui peuvent déboucher sur des conflits coutumiers dans notre pays.
Mais on déplore de plus en plus l'implication, l'ingérence des politiciens, les députés provinciaux, les députés au niveau national, gouverneurs et autres qui tirent les ficelles dans l'ombre.
Oui, effectivement, les élections ou la démocratie n'a pas amené que de bonnes choses chez nous. Tous ceux qui ont des ambitions de concourir pour avoir un pouvoir électif, soit au niveau national, au niveau provincial, au niveau local même, si ce n'est pas encore le cas, et chacun veut avoir un chef coutumier à lui. Et généralement, ce sont les politiciens qui sèment ce genre de troubles au sein des familles régnantes. C'est-à-dire que dans les us et coutumes locales, l'expérience que j'ai eue sur l'ensemble du pays, il y a les arbres généalogiques qui prévoient que en cas de vacances, si c'est telle famille qui était aux affaires, c'est telle autre qui sera aux affaires. Et même les personnes, parfois, sont déjà connues bien avant. Mais il s'est fait que pour des raisons d'appétit politicien, certains candidats puisent dans la famille régnante une personne qui n'est pas censée avoir les pouvoirs et puis l'impose, en fait. Et à ce moment-là, il y a des conflits, nous avons des problèmes, des troubles dans plusieurs de nos entités coutumières.
Mmh. On a déploré par exemple ce qui est arrivé récemment dans la chefferie de Bukumu, dans le territoire de Nyiragongo, au nord Kivu, où trois prétendants au trône se battent pour accéder au trône. Et comment résoudre ce genre de situation?
Effectivement, je me suis penché sur, d'ailleurs je suis sur ce conflit-là qui est très délicat pour plusieurs raisons. En fait, à l'est du pays, généralement, les principes sont très rigides. C'est-à-dire que la succession, c'est du père au fils.
Lorsque le Mouami décède, c'est son fils immédiatement qui prend...
Oui, les fils que lui désigne, pas tous ses fils.
Okay.
Les fils, généralement, c'est le fils aîné. Et s'il ne désigne pas un fils, en ce moment-là, on se réfère à la famille régnante. Mais généralement, c'est du père au fils. C'est le fils qui a été désigné qui prend les pouvoirs. Et les autres frères ne peuvent pas prétendre au trône, quel que soit le cas.
Mmh.
Et lorsque le fils désigné à son tour meurt, il ne remet pas le pouvoir à ses frères.
C'est son
il
fils.
Prend aussi un de ses fils. Alors, la
oui.
particularité pour la chefferie de Bukumu, c'est que il y a eu plusieurs faits qui ont fait que l'interprétation maintenant de la coutume devient un peu plus délicate. C'est-à-dire quoi? Il y a au départ le Mouami Kaembe, si j'ai bonne mémoire, le fondateur de la chefferie Bukumu, qui a eu 12 enfants. Et de son vivant...
Avec plusieurs femmes.
Certainement.
Oui.
Alors, de son vivant, il a donné le pouvoir à son fils aîné, qui s'appelle Bukungu, je pense bien. Et pendant, de son vivant également, il a déchu. Pour des raisons d'immoralité, d'indélicatesse, tout là.
Il a déchu son fils.
Ah, voilà. Et il donne le pouvoir à un autre fils qui s'appelle Bouchichi. Et lui aussi, à son tour, il n'a pas beaucoup régné. Il est décédé. Et entre-temps, Bukumu, qui avait été déchu, reprend le pouvoir. Du vivant de son père toujours. Jusqu'à ce qu'il meure. Alors, maintenant, en mourant, il a laissé un fils qui était mineur. Ne pouvant pas prendre le pouvoir, en principe, selon la coutume locale là-bas...
Un mineur ne peut pas diriger.
Oui, on prend un régent jusqu'à ce que celui-ci atteigne la majorité.
Mmh.
Et entre-temps, Bouchichi, qui était également décédé, son fils était mineur et on lui a désigné un régent. Mais malheureusement, le régent, à son tour, la famille régnante l'investit également comme chef coutumier, comme chef de chefferie.
Mmh.
Donc, pour lui, il n'y a pas possibilité de céder le pouvoir au, à l'ayant droit devenu majeur. Ça, c'est le premier problème. Et l'autre, là, dit non. Mais avant vous tous, c'était mon père qui était aux affaires. Et que, étant mineur, maintenant je suis majeur, je veux reprendre mon pouvoir. Ça aussi, les conflits s'accentuent. Mais entre-temps, chez le Boutchitch là-bas, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il se passe que les régents qui avaient été investis comme chef coutumier par la suite avaient été suspendus par... avaient été suspendus par l'autorité provinciale pour désobéissance. Alors, maintenant, la suspension a pris un certain temps et il a saisi la justice. La justice a cassé la suspension de l'autorité provinciale.
Monsieur le ministre, je reviens à vous, le temps d'accueillir les deux auditeurs.
Merci.
Quelle est l'approche du gouvernement dans la résolution des conflits coutumiers? Nous avons en ligne Jean-Pierre de Kananga et héritier Wamenga de Kisangani. Jean-Pierre, bonjour.
C'est Jean-Pierre, Moutanidi, ami Kalayo, au Kassai Central.
Bien. Oui, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la résolution des conflits coutumiers?
Oui, par rapport aux conflits coutumiers qui gangrènent notre grand pays, la RDC, je propose deux points. En fait, le gouvernement doit d'abord instruire le ministère de l'Intérieur à créer une commission d'enquête pouvant descendre sur le terrain dans chaque province, territoire, secteur et dans des chefferies pour préciser les limites naturelles et artificielles de nos entités coutumières, aux vies et aussi de toutes les autorités de la place. Et deuxièmement, après le gouvernement doit encore à travers son ministère de l'Intérieur, notifier tous les groupes ou chefferies reconnus en temps et leurs chefs qui sont reconnus et présentés ces gens.
Désolé, la communication se détériore, Jean-Pierre. Vous pouvez peut-être vous déplacer pour que ça s'améliore, c'est fait?
Oui, merci beaucoup.
Oui. La deuxième proposition, c'est laquelle?
La deuxième proposition, le gouvernement doit encore, à travers son ministère de l'Intérieur, notifier tous les groupements ou chefferies reconnus par l'État et leurs chefs qui sont connus et présentés officiellement par la famille régnante. Voilà un peu la deuxième proposition.
Merci Jean-Pierre de Kananga. Héritier Wamenga de Kisangani, bonjour.
Bonjour Monsieur Jordi.
Quelle est votre préoccupation par rapport à la résolution des conflits coutumiers?
Voilà, nous avons dit que les conflits coutumiers sont récurrents dans la quasi-totalité des provinces de la RDC. Mais l'observation sur quoi c'est que le ministère de l'Intérieur ne sait pas trop comment gérer ces conflits, parce qu'il n'y a pas trop de techniciens qui ont étudié comment gérer les conflits. C'est pour laquelle nous avions donné trois propositions pour mettre fin, c'est-à-dire éradiquer automatiquement les conflits coutumiers dans le point et recoins de la RDC. Première proposition, il faut identifier le vrai problème. Des fois, vous allez comprendre avec moi que les conflits coutumiers sont dits des fois à des conflits de limites ou soit à des conflits de succession. Et si on n'a pas identifié le vrai problème, on va naviguer à l'heure. Deuxième proposition, il faut passer par le dialogue, réunir, identifier les vrais acteurs, les réunir et parler dans l'ensemble, on peut trouver des solutions. Et aussi, dans ce dialogue, il faut proposer des réponses d'une manière urgente qui seront efficaces afin de mettre fin à ce genre de conflits. Si on échappe cette ligne de conduite, en tout cas, il est difficile à mettre fin pour les conflits coutumiers qui se vit récurrentement en RDC. Voilà était ma contribution.
Bien, merci héritier de Kisangani. Monsieur le ministre, vous avez suivi les deux auditeurs. À vous la parole.
Oui, merci. J'ai suivi les deux auditeurs. En fait, il faut que les gens comprennent une chose. Il y a les procédures pour régler les conflits coutumiers. La première question que vous m'avez posée, j'ai pas encore vidé pour dire que l'approche du gouvernement, c'est d'abord la prévention des conflits. La résolution vient en second lieu. Et il y a des procédures pour résoudre des conflits coutumiers. il faut pas prendre les conflits coutumiers comme étant des conflits politiques pour organiser ce genre d'assises. Chaque coutume locale prévoit une procédure de résolution des conflits. Je vous ai dit, les conflits ont atteint un niveau tel que aujourd'hui, dans tous les pays, on sent qu'il y a des problèmes. C'est parce que, c'est pour moi, c'est la première cause, c'est à cause des élections. Ce sont des politiques qui s'immixent dans les affaires coutumières. Ils veulent avoir de chefs coutumiers acquis à leur cause pour des raisons électoralistes.
Qui vont influencer leur sujet.
Voilà. Et depuis que je suis arrivé aux affaires, j'ai dit, je ne résous aucun conflit sur base des injonctions politiciennes. Et je pense que si vous regardez très bien, je suis le seul ministre qui se déplace pour aller résoudre des problèmes au niveau local. Et avant nous, le problème s'est résolvé à partir du cabinet du ministre.
Un député dernièrement, vient vous étiez avec... même au Katanga pour installer un chef.
Exactement.
Il y avait vacances.
Un conflit de plus de 32 ans. J'en ai résolu de plus de 10 ans, de 15, 20 ans. C'est-à-dire qu'un député vient avec des procès-verbaux, avec les noms de son candidat. Voilà, celui-ci, il est de la famille régnante. Donnez-lui un arrêté de reconnaissance. Et c'est ce qui se faisait. Actuellement, ça ne se fait pas. Vous venez et moi, je me déplace avec mes équipes pour qu'on interroge la coutume locale, qu'on sache en cas de conflit comment on le rejoue. Et la première des choses, c'est d'identifier l'arbre généalogique pour savoir dans cette famille qui sont les familles qui prennent le pouvoir et quelles sont celles qui ne le prennent pas. Et sur base de ça, avec le concours de pères, c'est-à-dire des chefs coutumiers...
Des villages voisins...
Oui, on arrive toujours à trouver une solution. Et je pense que nous allons continuer. Et par rapport aux arrêtés de reconnaissance qui interviennent aussi dans la résolution des conflits, c'est que pour moi, il n'y aura plus d'arrêtés de reconnaissance individuels. C'est ce qui pose problème. Nous faisons, quand je me déplace dans une province, je prends tout mon temps pour résoudre tous les conflits coutumiers de cette province et enfin proposer un arrêté de reconnaissance provincial collectif pour toutes les autorités coutumières de cette province-là. De manière à éviter des faux arrêtés et à éviter à ce que les gens influencent pour que les conflits puissent continuer au sein de cette province-là.
Voilà. Parlez-nous du cas du Katanga.
Oui, au Katanga, je pense qu'il y a...
Un vieux conflit de plus de 30 ans.
Oui, il y a deux grands conflits qu'on a résolus, qui étaient très, 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 très pénibles. C'est le conflit de la chefferie de Kaponda. À Kaponda, là-bas, le chef Kaponda est en même temps chef de chefferie et chef du groupement Kaponda. Et il s'est fait que celui qui a été désigné chef de groupement, qui devait automatiquement être chef de chefferie, avait été, à son temps, évincé par un des membres de la famille régnante, avec l'appui des autorités politiques, pour que lui ne reste que chef de groupement. Et il y avait une dualité. Il y avait un chef de groupement et un chef de chefferie. Vous savez, là-bas, la pomme du discours, c'est la redevance minière qui revient aux entités coutumières, en fait aux entités territoriales décentralisées. La chefferie étant une entité territoriale décentralisée a droit à des redevances minières. Ce qui fait que celui qui gérait la chefferie n'était pas chef de groupement. Et ce conflit a duré tellement longtemps qu'à sa mort, ses enfants ont voulu continuer avec les mêmes systèmes. Nous sommes allés pour leur dire non. Vous devez respecter votre coutume locale. Le chef de groupement, c'est lui qui doit être chef de chefferie. Et non le contraire. Ça, on l'a résolu. Je pense que par rapport à la gestion administrative de la chefferie, on a mis toutes les familles d'accord pour qu'elles gèrent ensemble la chefferie. Mais que le pouvoir traditionnel soit représenté par le chef de groupement, voilà, qui est en même temps chef de chefferie. Ça, c'est par rapport à Kaponda. Il y a aussi encore chez les Pandé.
C'est où les...
C'est toujours dans les Haut-Katanga, les Kassila aussi, c'est pratiquement la même chose. Et il y a une famille qui a toujours régné et l'autre n'a jamais eu le pouvoir parce que à chaque moment, quand il y avait succession, elle s'est imposée. Et on a dû refaire les choses pour appliquer le principe qui est le leur, que le pouvoir était rotatif. Et celui qui est là actuellement comme Moulopoué, parce que là on les appelle des Moulopoué, avait été désigné du vivant de celui qui est décédé, qui n'était même pas son père biologique, qui était le père biologique de son prétendant. Alors, face à cette réalité-là, On a confirmé son choix et aujourd'hui il y a la paix, mais la gestion, elle se fait de manière collégiale par rapport à la redevance immobilière.
Voilà, et qu'est-ce que vous faites pour bloquer la mainmise des politiques dans les affaires coutumières?
J'ai l'appui du Premier ministre, qui est le chef du gouvernement et le chef de l'État. Je leur dis que si nous voulons pacifier les entités coutumières, parce que notre administration est basée plus sur les entités coutumières, c'est les villages, c'est le groupement, c'est la chefferie. Vous voyez, donc si à ces niveaux-là, on ne sait pas instaurer la paix, on ne sait pas restaurer l'autorité coutumière, il y aura toujours des problèmes de sécurité dans notre pays. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui, les gens ne comprennent pas. Mais les villageois qui vont au champ, lui, le premier est au courant des bruits de bottes des voisins qui entrent. Mmh.
C'est lui qui donne l'alerte.
Mais bien sûr. Mmh. Mais si on ne les considère pas à leur juste valeur, nous aurons toujours des problèmes de sécurité dans le pays. Et le chef de l'État est dans cette logique-là de pouvoir pacifier les entités coutumières, de stabiliser les animateurs des entités coutumières. Et le Premier ministre m'appuie et nous donne les moyens qu'il faut pour que nous puissions nous déplacer de province en province pour résoudre les conflits coutumiers. Mmh.
Par exemple, pour le cas du conflit qui est dans la chefferie de Boukoum, comment est-ce que vous êtes arrivé à mettre fin à ces conflits-là?
Ces conflits, nous sommes en train de continuer l'arbitrage jusqu'à ce qu'on trouve une solution. On n'a pas encore atterri. Nous sommes en train de travailler avec le gouverneur de province. D'ailleurs, de temps en temps, nous sommes en communication pour voir comment nous allons atterrir, quel que soit le cas. Un conflit coutumier, c'est avant tout un conflit familial. C'est une famille qui se dispute le pouvoir. Et on ne peut pas, à cause de cette famille-là, mettre la paix et la sécurité de toute la population en péril. Donc nous sommes en train de travailler pour que les uns et les autres comprennent que... Il faudrait que chacun mette de l'eau dans son vin pour qu'on trouve une solution qui puisse permettre à ce que la coutume locale soit respectée et que le pouvoir soit restauré. Je pense que nous sommes en train de travailler. D'ici très peu de temps, j'ai reçu les différents chefs coutumiers qui sont venus de... J'ai reçu les différents chefs coutumiers qui sont venus de Goma. Et on a échangé. Et sur place également, il y a la CCRC provinciale et le gouverneur qui sont en train de travailler pour que nous puissions atterrir sur ce conflit-là.
Bien, quelle est l'approche du gouvernement dans la résolution des conflits coutumiers? On en parle aujourd'hui avec M. le ministre Erol Michel Mvouzimeya, il est ministre chargé des affaires coutumières. Des questions et préoccupations, eh bien, écrivez-nous à service@radiookapi.net et postez vos questions et préoccupations sur la page Facebook de l'émission Okapi Service.
Okapi Service, à votre service.
Bien, nous allons accueillir à présent deux auditeurs, ingénieur Paul de Kananga et Jefano de Cabinda. Ingénieur Paul, bonjour. Ingénieur Paul, bonjour.
Bonjour, monsieur. Bonjour.
Bien, nous parlons aujourd'hui de l'approche du gouvernement dans la résolution des conflits coutumiers avec le ministre chargé des affaires coutumières. Quelle est votre préoccupation?
Ah oui, bonjour monsieur le journaliste, et je dis aussi bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi. Concernant le sujet que vous nous avez lancé sur Facebook, moi-même j'avais apprécié, parce que ce sont des situations, ce sont les mêmes difficultés que nous avons actuellement partout en RDC. D'après moi, j'avais jugé bon au moins de demander à notre gouvernement, comme je vous avais déjà écrit sur Facebook, je souhaiterais que notre gouvernement raisonne sur cette affaire, parce que si les gens comme nous sommes en train de voir des conflits qui s'enlèvent partout dans tous les territoires nationaux, vous allez comprendre qu'il y a que des morts, du jour au jour. Si le gouvernement s'engage à cette affaire, comme il est auprès chez nous, on file à mesure, il va trouver des résultats meilleurs, il va trouver des solutions rapides. De quelle façon? Nous savons très bien que partout, là où il y a des provinces, devant des territoires, après territoire, il y a des villages. Dans des territoires, nous voyons l'administrateur qui travaille ensemble avec les chefs coutumiers. Nous voyons donc à partir des provinces, il y a d'abord des gouverneurs au niveau territorial, administrateur des territoires, au niveau des secteurs, chefs des secteurs, en collaboration avec les chefs coutumiers. Ce que le gouvernement prenne tous ces gens en charge, ce qu'ils réalisent leurs besoins, leurs exigences, il y aura toujours la paix, parce que quand nos chefs entités sont balèzes, quand on les prend déjà en charge pour savoir gérer la population, c'est qu'ils devraient au moins faire comme leur tâche qui est à leur disposition. je ne suis pas sûr qu'il y aura toujours des conflits.
Parce bien, Paul, problème, vous proposez.
On est obligé de défendre sur le terrain, chercher de trouver des solutions, mettre du calme à tout moment, à chaque fois. Mais si les journalistes vraiment à démontrer, allez sans vous dire ce que le gouvernement s'engage à faire, tout sera facile. Tout sera facile. S'il y a des difficultés, des déficits, des gores, des conflits, comme vous l'avez cité, est-ce que le gouvernement nous a laissé en libération?
Oui, Paul, si je... Oui, Paul, si je comprends bien, oui, votre proposition est que le gouvernement prenne en charge les chefs coutumiers, et voilà, ça mettra fin à tous ces conflits-là.
Ah oui, pas seulement les chefs coutumiers, il va aussi s'engager aux athées aussi, à même le gouverneur, pour que ces gens soient...
D'accord, merci beaucoup. Merci, on va donner la parole à Jeffano de Cabinda. Bonjour. Jeffano, vous êtes à Cabinda, bonjour.
Bonjour, monsieur l'auditeur.
Quelle est votre question par rapport à la résolution des conflits coutumiers?
Oui, ma préoccupation est la suivante. Je voudrais seulement demander au gouvernement d'organiser même une commission locale qui sera indépendante pour montrer à chacun, ni les chefs coutumiers, ni les leaders politiques, où commence son autorité, où ça prend fin. Puisque tout le monde crie toujours du développement. Je suis arrivé dans un territoire dépassé Katamba. J'ai trouvé là-bas, c'est comme un désert. Les gens ont perdu leur bien, leur vie. Après, si vous arrivez dans ces milieux-là, même si les gens revenaient, ils pourront souffrir même pendant 10 ans pour retrouver leur vie stable, puisque tout est détruit à cause de ces conflits qui subsistent il y a de cela, je ne sais pas combien d'années. Mmh. Alors, si le gouvernement organisait une commission locale qui sera indépendante comme la CENI, pour montrer même aux chefs coutumiers, même à n'importe qui, même aux chefs religieux, où commence leur pouvoir et où ça prend fin, comme la société civile semble être corrompue ce dernier moment, je pense qu'on aurait déjà résoudre ce genre de conflits et on n'aurait pas encore assisté à ce genre de guerre, à ce genre de destruction des choses. Or, ici chez nous, peut-être pour payer un moulin, quelqu'un peut travailler même pendant 10 ans, mais il paye son moulin là, à cause d'un simple problème, je ne sais pas coutumier, les gens viennent détruire ces moulins là. Alors, quand est-ce qu'on va se développer avec ce genre de comportement?
Oui. Merci, Jeffano de Cabinda. Monsieur le ministre, vous avez quand même suivi les préoccupations. Et il y a le premier, Paul, qui demande à ce que le gouvernement prenne en charge les entités coutumières pour éviter les conflits. Et puis, Jeffano a fait allusion à ces conflits, à ces affrontements qu'il y a eu dans les territoires de Katanda, au Kasaï oriental, entre trois communautés. Les gens, les villages sont vidés, les cases ont été brûlées, et puis les gens ont tout perdu, les champs. Donc, il dit que la pauvreté s'installe. Même si les gens revenaient, ça prendra peut-être 10 ans pour que les gens reviennent à la situation où ils étaient avant. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire par rapport
oui,
à tout ça?
Oui, j'ai suivi, en fait, cette intervention qui est très pertinente. En fait, il faut lire la loi 15 qui fixe les statuts des chefs coutumiers. Mmh. Cette loi prévoit des mécanismes de résolution des conflits. Nous avons les commissions consultatives de règlement des conflits coutumiers qui se situent au niveau de chaque secteur ou chefferie, au niveau de chaque province, même si toutes elles ne sont pas encore installées. Et au niveau national, il y a une commission technique que je dirige avec le secrétaire général. Ce sont des structures qui nous permettent de pouvoir résoudre les conflits coutumiers. Mmh. Comme je l'ai dit tout au départ, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que les conflits coutumiers, la recrudescence des conflits coutumiers aujourd'hui est due du fait du comportement de nous-mêmes politiciens, d'un côté, et d'autre part, c'est dû du fait de la cupidité des membres de la famille régnante, qui aiment beaucoup l'argent, qui veulent se faire acheter pour servir de base électorale, pour servir des intérêts mesquins, soit des politiciens, soit des commerçants. Moi, je le dis toujours, je suis en train de réfléchir. Comme on dit, la plume est sève, la parole est libre. Pour moi, je suis en train d'envisager une réforme. Aujourd'hui, les autorités coutumières sont à la solde soit des chefs de secteur, soit des gouverneurs de province, et l'entité coutumière n'a plus cette autonomie-là. Et je suis en train d'imaginer, je suis en train de m'inspirer de l'exemple de la Nouvelle-Calédonie, où nous avons une autorité coutumière très efficace. Nous avons des assemblées délibérantes, en fait, où il n'y a que les chefs coutumiers au niveau de chaque entité. Et à côté de ces assemblées délibérantes, ils ont une sorte d'exécutif. En fait, ce n'est pas une dualité par rapport au pouvoir régalien, non. Mmh. En fait, ce sont des corporations qui existent. Et c'est à ce niveau-là qu'on propose des réformes. Et lorsqu'il y a des conflits sont gérés par eux-mêmes. Il y a l'intervention des personnes, ni de l'État, ni de la société civile.
Eux-mêmes,
c'est entre eux le père.
Voilà.
Et au niveau national, ils ont ce qu'on appelle les sénats coutumiers. Et à côté du sénat coutumier, il y a encore une sorte d'exécutif coutumier qui fait pratiquement le même rôle. Lorsque les problèmes au niveau local n'ont pas été bien gérés, ça remonte au niveau du sénat. Et là, il réfléchit sur des réformes à apporter, sur la législation qu'il faudrait mettre en place par rapport à la gestion des affaires coutumières. Et le Parlement, en ce moment-là, ne fait que prendre acte de propositions.
De ce qu'ils ont décidé entre
eux. Exactement. Et les conflits sont réglés entre eux. Mmh. Mais ici, chez nous, c'est le gouverneur qui veut mettre un chef coutumier. Il dit, moi, je suis gouverneur, je dois être réélu, ou je vais avoir des députés provinciaux cooptés, je vais avoir des députés nationaux, et je veux que toi, tu sois chef coutumier. Et dans l'irrespect total des procédures coutumières établies dans cette entité coutumière-là. Mmh. Et là, c'est extrêmement grave. C'est vraiment à la base de beaucoup de conflits.
Mais c'est ce qui est arrivé avec le phénomène Kamouina-Sapou.
Mais c'est exactement ça. Aujourd'hui, au-delà d'un conflit coutumier, c'est devenu un conflit communautaire. Vous voyez, ça a même dépassé les limites d'un conflit coutumier. Sa résolution aujourd'hui...
Et les conséquences sont néfastes.
Néfastes, bien sûr. Sa résolution aujourd'hui ne relève pas seulement du ministère des Affaires coutumières. D'ailleurs, les conflits coutumiers n'existent plus. Maintenant, ce sont des stigmatisations qui restent encore, qu'il faudra régler. Et d'ailleurs, je salue aussi des initiatives qui sont prises dans ces cas-là, parce que il y a le vice-ministre de l'Intérieur qui est sur place, d'ailleurs, là-bas au Kassai central, pour continuer à consulter les communautés. Il y a un ou deux mois, j'ai assisté moi-même à la restitution du dialogue organisé par Interpeace, où on a invité le VPM Intérieur et moi-même. Il y a des avancées, mais ceci doit nous servir de leçon pour que jamais nous, politiciens, jamais nous, Congolais, nous puissions instrumentaliser le conflit coutumier, parce que c'est sur quoi ça va déboucher, nous ne savons pas. Il faudrait que nous puissions respecter les autorités coutumières et les entités coutumières. Ça ne sert à rien d'allumer le feu parce qu'on veut être élu, d'allumer le feu parce qu'on va avoir des terres, on va avoir des concessions minières, on va avoir des concessions forestières. Ça, c'est, il faudrait que moi, je résiste à ces pressions-là. Ce qui fait que dans ma marche jusque-là, j'ai fait en sorte que quand je résous un conflit, que je le fasse conformément aux us et coutumes locales.
Mais dans une émission, une précédente émission, on a reçu le représentant de l'autorité coutumière qui a dit qu'il y a une association au niveau national, mais souvent quand vous descendez sur terrain pour résoudre le problème, vous les associez pas.
Non, et je pense j'ai trouvé encore une association encore très divisée. Il y en a plusieurs. Il y en avait plusieurs, maintenant il y en a plus. Il y en a qu'une seule qui est crédible, c'est l'ANATC. L'Alliance des autorités traditionnelles du Congo. J'ai trouvé trois ailes quand je suis entré. Mmh. Il y avait elle, Munongo. Il y avait elle Difima, il y avait elle un autre là que j'oublie, et j'ai compris de ces trois L là, il y avait qu'une seule L qui était légitime, où il y avait qui était dirigée par une autorité coutumière, l'aile Mounon. Les autres, ce ne sont pas des chefs coutumiers, c'est des féticheurs, ce sont
des usurpateurs.
Vraiment, ils sont même pas chefs coutumiers. Ils sont pas des chefs, ce sont des usurpateurs. Et j'ai remis de l'ordre là-dessus pour qu'il y ait une seule ANATC. Et quand je me déplace, j'ai résolu le conflit du Katanga. Je suis allé avec le président de l'ANATC, le Mwami Munongo de Bayeke. C'est avec lui qu'on a résolu le conflit de Kaponda. C'est avec lui également qu'on a résolu le conflit de Pandé. Donc, j'ai fait un effort chaque fois que je me déplace, si les moyens me le permettent. J'ai fait en sorte que je me fasse accompagner d'un membre de cette alliance-là.
Bien. Et par rapport au conflit dans les territoires des Katanga ou Kasaï, où est-ce que vous en êtes par rapport à la résolution ?
Oui, au Gassin, en fait, j'ai sollicité que je puisse descendre. Je suis pas encore allé là-bas. Je suis en train de travailler déjà avec les éléments que j'ai au niveau du bureau. Je pense que le mois prochain, je ferai l'espace Kassai pour m'imprégner de tous les conflits, les résoudre et reconnaître, comme je l'ai dit tout à l'heure là, par des arrêtés collectifs provinciaux, toutes les autorités coutumières qui ont droit de l'être.
Monsieur le ministre, pourquoi vous intervenez toujours après, alors qu'il y a déjà eu des conséquences néfastes, des morts d'hommes, on a brûlé les cases et autres? Pourquoi ne pas intervenir en amont pour éviter ces genres de situations?
Non, ça c'est ce que nous avons trouvé, nous sommes en train de résoudre. Mais je vous ai dit, notre approche, c'est la prévention. La prévention, c'est quoi en fait? C'est que lorsque je suis informé qu'il y a un endroit où il faut qu'il y ait une succession, je dépêche automatiquement le gouverneur pour qu'il actionne les mécanismes que prévoit la loi au niveau provincial, au niveau de chaque secteur ou chefferie, pour qu'on procède à la désignation selon les us et coutumes, sans qu'on arrive au conflit. Et ça, c'est d'ailleurs le cas le plus légion, en fait. Les conflits sont très particuliers, mais ça, on ne met pas accent sur ça parce que ça ne pose aucun problème. Et c'est sur quoi je m'active de plus en plus. Mais les conflits, on les a trouvés, ils sont en train de naître davantage. On est censé les résoudre.
Voilà, on est censé les résoudre. Quelle est l'approche du gouvernement dans la résolution des conflits coutumiers? On en parle aujourd'hui avec M. Hérols Michel Mbouzimeya, ministre chargé des affaires coutumières. Alors, vous avez évoqué parmi les causes la contestation des limites des entités coutumières. Alors, par rapport aux limites, quelle approche vous utilisez pour résoudre ces problèmes-là?
Oui, en fait, par rapport aux limites, il y a plusieurs approches que nous utilisons. Je pense qu'il y a des données qui relève de notre colonisation, afin qu'on peut actionner. Nous avons le ministère des Affaires foncières, nous avons beaucoup d'autres ministères qu'on fait intervenir pour que nous puissions, à partir de l'histoire, savoir quelles sont les limites des entités pour que nous puissions les départager. Et ces conflits-là ne sont pas nombreux. Mais ça arrive de temps en temps, mais généralement... nous nous référons à beaucoup d'autres experts que notre ministère pour pouvoir fixer. Et généralement, comme notre histoire et notre tradition est toujours orale, il y a des gens qui détiennent toujours la vérité. Et quand on se rend vers ces gens-là et qu'on retrace l'historique et qu'on fait appuyer par les recherches qui existent, les données qui existent au niveau du ministère de l'Intérieur et des autres ministères, en ce moment-là, nous certifions avec le ministère de l'Intérieur les limites de chaque entité coutumière.
Parlons à présent du cas de Minembwe, monsieur le ministre. On a créé une commune vaste qui a même englouti certaines chefferies qui étaient tout autour. Et là, c'est déjà des germes des conflits. Ça va créer des problèmes.
Oui, Minembwe, je pense, n'est pas une entité coutumière. C'est une entité territoriale décentralisée. Je pense que là, il y a un ministre chargé de la décentralisation et le ministre de l'Intérieur. Donc, nous ne gérons pas les conflits liés à la décentralisation, les conflits liés à ce genre de conflits. Nous, il faut que ça soit obligatoirement un conflit coutumier. Un conflit coutumier, c'est celui qui frappe les villages, les groupements ou la chefferie. Pas les secteurs, pas une commune rurale.
Voilà, donc, mais est-ce qu'il n'y a pas un. Est-ce qu'il y a. Quelque part, votre ministère n'est pas concerné parce qu'il semble qu'il y a des chefferies tout autour qui sont englouties par cette commune rurale.
Oui, en fait, dès lors qu'il y aura des groupements de chefferies qui vont, en fait, être lésées, si ça sera le cas par rapport à cela, je pense que nous allons intervenir. Je pense que. Une commune rurale comme une chefferie, ce sont des entités territoriales décentralisées. En principe, il devait y avoir une limite de démarcation. Ça ne peut pas cohabiter ensemble.
Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir que les pouvoirs coutumiers soient bien structurés, comme vous avez donné l'exemple de la Nouvelle-Calédonie, pour avoir une structure bien organisée où même les chefs coutumiers traitent leurs problèmes?
Oui, exactement. Nous sommes en train de travailler pour envoyer des experts au niveau de la Nouvelle-Calédonie pour s'enquérir de l'expérience et prendre les contenus de notre pouvoir coutumier pour voir comment est-ce que nous pouvons adapter et rendre autonome notre pouvoir coutumier et le rendre beaucoup plus efficace. Je pense que nous sommes en train d'y travailler. Ça va nous amener à pouvoir revoir la loi 15 sur les statuts des chefs coutumiers. Mmh. Et peut-être il y aura encore beaucoup d'autres réformes sur le plan législatif qui nous permettront de mettre en place cette réforme-là, pour moi, qui est très, très importante. Nous devons autonomiser les pouvoirs coutumiers. Nous ne pouvons pas aujourd'hui instrumentaliser le pouvoir coutumier au point où les chefs coutumiers, même par rapport à la loi 15, le chef coutumier n'est pas seulement une autorité coutumière, mais c'est aussi un agent de l'État. Il faudrait qu'on l'aménage pour qu'il puisse jouer réellement son rôle pour la pacification et le développement de notre pays au niveau de la base.
On va accueillir Ousseni depuis Kalemi. Bonjour.
Bonjour, bonjour, monsieur le journaliste.
Bonjour, Ousseni. Ousseni qu'est-ce...
depuis la province de
Mali. Voilà, qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Ousseni depuis la province.
Oui. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport au conflit, à la résolution des conflits coutumiers?
Voilà, c'est la résolution, pas d'abord la conscience de nos dirigeants. Et aussi à ceux qui les manipulateurs, ceux qui manipulent les gens à pouvoir faire ce conflit-là. Ah, c'est une question de la confiance. Si nous gardons notre confiance dans un amour de patrie, ces conflits peuvent être bannis d'office. C'est ça, c'est tout.
Bien, merci beaucoup, monsieur le ministre. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Oui, bien, je pense que il a raison, en fait. Le problème, c'est que quand les gens sont manipulés, quand l'autorité coutumière n'a pas confiance en elle-même et se fie à tout ce qu'on lui dit, à toutes les rêveries qu'on lui fait gober, c'est normal qu'on arrive à avoir des autorités piètres et en même temps aboutir à ce genre de conflits. Je pense que
d'ailleurs,
important.
Certains avaient dit dans l'émission précédente qu'il faut aider aussi quand même à les autorités coutumières à relever les niveaux d'études parce que beaucoup d'entre eux n'ont pas du tout étudié.
Mais bien sûr, la loi prévoit des conditions pour que vous puissiez être autorité coutumière. Et généralement, les gens ils comprennent pas. Parmi les conditions, la loi prévoit avoir un niveau minimum de diplômés d'État. Et la plupart de nos autorités, généralement, ils se basent sur la coutume. Mais non, c'est pas seulement la coutume. Parce que l'autorité coutumière aujourd'hui n'est pas que seulement autorité coutumière, mais c'est aussi un agent de l'État. Et en tant que tel, chargé du développement au niveau de la base, il doit avoir des prérequis qui lui permettent de pouvoir enclencher, en fait, de pouvoir mettre en place un programme de développement pour son entité coutumière. Mmh. Ça, c'est très important. Et nous allons, dans le cadre de prévention des conflits, nous allons continuer à sensibiliser sur cette loi pour que tous ceux qui appartiennent à des familles rhénanes, qu'ils comprennent que les lieux de sang seul ne suffit pas, qu'il y a d'autres conditions qu'il faille remplir pour occuper les fauteuils des chefs coutumiers, dont notamment avoir un certain niveau d'études.
Il y a certains, par exemple, conflits qui naissent. Par exemple, le chef décède. Bon, il a laissé. Les enfants sont issus de deux lits. Ceux du premier lit ont régné. Les autres du deuxième lit voudraient à leur tour aussi prendre le pouvoir et ça dégénère.
Bon, ça, ce sont juste des conflits. Le pouvoir, il faut voir. Que dit la coutume locale? Comment se transmet le pouvoir? C'est par quel sang? C'est par le sang paternel ou c'est par le sang maternel? Si c'est par le sang paternel, l'enfant qui soit de n'importe quel lit a droit d'accéder au trône parce qu'il est du sang patrilinéaire.
Et si généralement, le pouvoir, disons, le code, je ne sais pas s'il faut appeler ça.
Le statut.
Oui, ce n'est pas codifié. Disons. La loi coutumière.
Oui, la loi coutumière n'est pas codifiée, mais nous avons des principes fixés dans la loi 15 qui fixe le statut de chef coutumier. Mais quand vous rentrez dans chaque coutume locale, vous allez voir que même si c'est oral, c'est vraiment, il y a tout un code qui prévoit des principes pour accéder au pouvoir.
On va accueillir Maître Ali depuis Kalemi. Bonjour.
Oui, bonjour, messieurs journalistes. Bonjour aussi à tous les auditeurs.
Bien, nous parlons aujourd'hui de l'approche du gouvernement dans la résolution des conflits coutumiers. Qu'est-ce que vous avez à nous dire, Maître Ali?
Bon, merci beaucoup, monsieur Jean-Rite. D'emblée, je voulais d'abord dire que les nœuds du problème
par rapport à la persistance de ces conflits coutumiers est due à la passivité de nos autorités, étant donné que ces problèmes datent de longtemps. Et si du moins nos autorités avaient cette volonté délibérée de pouvoir mettre fin à tous les conflits dont sont mûrs nos compatriotes, je pense très bien que ces problèmes arriveraient déjà au bout. Pour ainsi dire que la passivité d'abord de nos autorités serait à la base de tout ce qui se passe, monsieur le journaliste. Vous savez, mais l'État joue un rôle régulateur. C'est que lorsque une contrée est torpillée, pourfendue, attaquée par des troubles, l'État est censé intervenir afin d'y apporter des mesures tant palliatives que qualitatives. Mais nous avons constaté que il y a la récrudescence récurrente et accrue de ces mêmes troubles sans que nous ne constations l'apport nécessaire et crucial de l'État et congolais. Et pour cela, messieurs les journalistes, nombreux et certains parmi eux en meurent à cause toujours de cette absence. Pour ainsi dire, messieurs les journalistes, que si l'État prend les grêlots, l'initiative de pouvoir s'imprégner dans cette affaire, tout en sachant les causes, le nœud du problème, puis y proposer des solutions, messieurs les journalistes, ça serait une approche de pouvoir arriver au bout à tous ces troubles. Mais malheureusement, nous avons constaté cette absence.
Je pense merci, maître Ali.
Le chargé des affaires coutumières, il devrait faire tout de façon à savoir le nœud. Pourquoi ? Parce que ça serait tellement difficile de mettre fin à un trouble inert sans que l'on ne sache ses causes. Mais en l'air de ça, malheureusement, messieurs journalistes, on a tendance à attaquer les effets et oublier les causes. Pourtant, si nous attaquons les effets sans attaquer les causes, ça sera un manque à gagner. D'où pour moi,
d'accord,
pour que nous y arrivions au bout, mais imprégnés, mettre la main à la pâte. Si seulement les Congolais en veulent, monsieur le journaliste, nous n'en parlerons plus et ce trouble seront éradiqués en toute effectivité.
Merci, maître Ali, depuis Kalemi. Fariel, vous êtes à Kananga. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jody.
Quelle est votre préoccupation?
Oui, monsieur Jody, concernant cette question, vraiment, nous invitons surtout les politiciens, messieurs, à cultiver l'essence le plus élevé de la responsabilité pour créer l'unité et la cohésion sociale. Parce que si nous vivons ce conflit, messieurs Jody, c'est grâce aux politiciens qui instrumentalisent la population ainsi que les chefs coutumiers. Alors, pour mettre fin à ce conflit, messieurs Jody, nous interpellons l'État congolais de tout faire pour instaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national, à cette fin de trouver solution à ce conflit, monsieur Jody.
Bien, merci Fariel de Kananga. Monsieur le ministre, vous avez la parole.
Oui, merci. Je pense que maître a soulevé un problème qui est très important pour moi. Je pense la passivité, je ne sais pas le dire comme lui, il l'a dit, mais je pense que dans la subdivision du travail fait pour résoudre les conflits coutumiers, je pense que les ministres des Affaires coutumières est au niveau national. Et il a au niveau de chaque province ce qu'on appelle les CCRC, les commissions consultatives des règlements des conflits coutumiers, lorsqu'il y a des conflits. Mais à côté, il y a aussi les divisions des affaires coutumières qui gèrent non pas les conflits, mais par contre la prévention des conflits lorsqu'il y a un problème de succession.
Il y a aussi des ministres provinciaux chargés des affaires coutumières.
Chargés des affaires coutumières. Oui. Et nous descendons au niveau le plus bas, au niveau de chaque secteur et au niveau de chaque chefferie. Nous avons également les mêmes structures. Maintenant, ce qui est important, ce qui vient de souligner, il faudrait qu'à chaque niveau, toutes ces structures soient actionnées pour que, quand il y a un problème, qu'on puisse directement les prendre en charge, au lieu d'attendre qu'il y ait des conflits. Il a raison, je pense que je pense que lorsqu'il y aura la conférence des gouverneurs, je pense bien, il y aura beaucoup d'autres assises. L'année prochaine, nous allons organiser la conférence nationale des chefs coutumiers. C'est des questions que nous allons évoquer avec les gouverneurs pour que eux, à leur niveau, répercutent en fait ces mécanismes de gestion des affaires coutumières et des résolutions des conflits pour éviter effectivement que nous arrivions à chaque moment lorsqu'il y a des sérieux problèmes tels que des problèmes que nous venons d'évoquer, Kamounassap et autres. Et par contre, c'est que Madame dit, elle a également raison, je l'ai souligné moi-même, que nous devons autonomiser les affaires coutumières. Et même la loi dit, les ministres des affaires coutumières ne donne que l'arrêté de reconnaissance. Ça veut dire qu'il n'intervient pas dans la désignation des chefs coutumiers. Mais, comme je l'ai dit aujourd'hui, ils sont à la solde des gouverneurs, ils sont à la solde de tout le monde qui intervient.
Parce que les gouverneurs et autres donnent l'argent,
oui, dans
donnent
la désignation.
Des avantages.
Donc nous devons imaginer des réformes qui permettent à ce que l'État ne puisse jouer que son rôle de reconnaître une autorité coutumière qui a été désignée normalement dans le respect des us et coutumes. Et ça, c'est sur cette réforme que nous sommes en train de travailler.
Voilà, c'est sur la réforme que vous êtes en train de travailler. Alors, avant de terminer, monsieur le ministre, Fariel a aussi relevé quelque chose. Il a dit que les hommes politiques doivent aussi cultiver le sens de la responsabilité, parce que c'est eux qui sont à la base de tous ces déchirements que nous déplorons aujourd'hui.
Oui, les hommes politiques n'ont pas de limites lorsqu'il s'agit de la conquête du pouvoir. Je pense que là, nous devons tous travailler. La démocratie, c'est une école, nous sommes en train d'apprendre. On peut accéder au pouvoir sans agiter les entités coutumières. Ça prendra du temps. Mais je pense que c'est d'abord la population elle-même. Elle doit prendre conscience. Et ce sont les autorités coutumières elles-mêmes. Elles doivent prendre conscience que quand les gens concourent pour avoir le pouvoir politique, tous ce sont leurs enfants. Il ne faut pas qu'il y ait des favoritismes. Il ne faut pas qu'ils acceptent des présents qui leur permettent de compromettre leur intégrité morale. Au point d'hypothéquer même la tradition, d'hypothéquer les valeurs traditionnelles qui constituent les socles de notre société aujourd'hui.
Pour terminer, monsieur le ministre, un message à tous les chefs, les autorités coutumières qui vous écoutent en ce moment.
Oui, mon message, c'est que je demanderai à toutes les autorités coutumières de pouvoir cultiver la paix, de pouvoir gérer leurs entités, non seulement de façon traditionnelle, mais également en tant qu'agent de l'État, de pouvoir imaginer des mécanismes pour prévoir, pour impulser les développements au niveau de la base. Ça, c'est très important. Et surtout, de garder ce qui nous reste de plus cher, ce sont des valeurs traditionnelles qui sont essentiellement l'éthique, la moralité, l'honnêteté, la justice. Nous pouvons tout perdre dans ce pays, sauf ces valeurs traditionnelles. Ils en sont les détenteurs. Il ne faudrait pas qu'elles soient bradées, ces valeurs, parce que eux, ils ont besoin d'argent. Aujourd'hui, je déplore dans tous les pays, je reçois beaucoup de plaintes. Ils vendent tous les espaces, même les espaces réservés pour l'agriculture, même les espaces réservés pour la survie des populations que eux sont censés diriger. Et ça, je pense que c'est une dépravation, ce sont des délires. Il faudrait qu'ils reviennent à la raison. Et des gens, la plupart, ceux qui achètent ces terres-là, ils n'ont ni vache, ni champ, ni quoi que ce soit. C'est juste pour prendre des espaces, les privatiser et faire souffrir la population inutilement.
Bien, monsieur le ministre Eyrolts Michel Nvuzi Meya, je rappelle que vous êtes ministre chargé des affaires coutumières. Merci d'avoir répondu à notre invitation et à la prochaine.
Merci monsieur Jourdi.
Fidèles auditeurs, nous mettons un terme à cette première partie de l'émission Okapi, service consacré à l'approche du gouvernement dans la résolution des conflits coutumiers. Alors on se donne rendez-vous juste après les informations dans la seconde partie de l'émission. Restez avec nous.